Bon, alors toujours en compagnie de Maître Jean-François Gay, c'est la chronique « Prendre la route ». Alors Jean-François, une première question d'un auditeur avant de prendre des appels. Monsieur s'appelle Robert, je ne sais pas si j'ai bien compris sa question. C'est à propos du Jeep Wrangler et avec quatre roues motrices. Lui, il veut savoir si, par exemple, quand il y a de la neige sur l'autoroute, est-ce que c'est vraiment très sécuritaire de rouler sur les quatre roues motrices? Là, il m'a parlé de version intégrale ou je sais pas trop. Là. C'est là où j'ai peut-être pas compris tout à fait la question. Là.
Ben, tu vois, un Wrangler, on a eu à l'essai la version à deux portes il y a quoi, deux ou trois semaines. Puis justement, on a roulé avec durant des tempêtes de neige. Puis on est... Idéalement, c'est de rouler en mode quatre roues motrices, là. C'est pas de
idéalement.
Rouler. Idéalement. D'accord. Mais ça dépend toujours de la température, là. En hiver, je vous dirais, si le moindre...
Il m'a parlé, je pense, de la tenue de route. Lui, il est convaincu. Enfin, il pense que quand on roule à quatre roues motrices, c'est pas très bon pour la tenue de route.
Ben, moi, je vous dirais qu'il fait une époque, c'était comme ça. Tu sais, là, son recul, il y a 20 ans, quand on roulait en quatre roues motrices, c'était en quatre roues motrices à prise constante. C'est sûr que quand on venait pour tourner un coin de rue, admettons, où on abordait une courbe assez serrée, tu sentais le train avant là, travailler. Là. Bon, mais avec la sophistication...
Ça, c'est chose du passé.
C'est chose du passé. Mais ça dépend toujours de l'année de son Wrangler. Moi, je vous dirais un Wrangler 2020 ou un Wrangler récent, là, qui a 3-4 ans, il n'y aura pas de problème. Mm-hmm. Peut-être un Wrangler d'il y a une vingtaine d'années, mais là, c'est un autre paire de manches.
Bon, il doit en avoir moins sur la route quand même.
Ben, oui, puis...
20 ans?
Non, mais 15 ans.
Est-ce quelqu'un qui garde ça 20 ans?
Oui, mais ça dure longtemps, Wrangler.
Ah bon, d'accord.
Mais une quinzaine d'années, disons, de base, si tu préfères.
Parfait. Alors, j'espère que ça répond à la question de monsieur Robert, si je me souviens bien de son prénom. Nous allons parler maintenant à monsieur Michel.
Bonjour, jeune homme.
Oui, merci. Là, vous parlez à Jean-François, j'imagine.
Lui, il est né avant mon père.
Ah bon?
Bon. Pour résumer, je fais Trois-Rivières, Québec, 2, 3, 4, des fois 6 fois par semaine.
Oui.
On parle de 250 kilomètres.
Par jour?
Par semaine. Ah, par jour?
Par jour, aller-retour.
Ah bon, d'accord. Okay.
J'ai un Hyundai Elantra 2012, puis au moment où je vous parle, j'ai fait la plaie à Québec, et là, je viens d'arriver, je suis à 5,4 litres au 100.
C'est excellent. Vous roulez, à quelle vitesse vous roulez, monsieur?
100 kilomètres.
OK. Ben, c'est ça. La plupart des gens, ces autoroutes, roulent 118 en heure. On dit la police tolère jusqu'à 118, 119, mais ça fait en sorte que rouler à 118 au lieu de 100 km/h, souvent, on va augmenter, dépendamment du genre de véhicule qu'on conduit, là, ça peut augmenter la consommation de 20 à 30, 35 % là, de plus. Oui.
Alors, Michel, c'est quoi la question?
C'est que j'envisage un véhicule électrique. Je fais du kilométrage.
Oui.
Qu'est-ce que vous me conseilleriez?
Ben écoutez, à 250 km par jour, là, il y a peut-être un Kia Soul qui...
Ou le... Kona.
Le Hyundai Kona aussi, le Kia Soul, qui sont pratiquement identiques au niveau de la mécanique. Les manufacturiers... nous annonce une autonomie de 383 km. Mais là, vous, si vous roulez à 100 km/h, ça va dépendre de la température, monsieur. Ben là, allez-vous être capable de... Quand vous arrivez au travail, admettons, là, vous partez de Montréal...
Je peux pas le recharger.
Vous allez pouvoir le recharger?
Non, je peux pas.
Bon, ben d'abord, c'est un peu risqué. À moins que vous ayez le temps d'arrêter quelque part sur l'autoroute pour recharger vos batteries, là. Faut pas être mal pris, là, si on veut, là.
Ouais. À ce moment-là, je serais mieux de garder celui-ci qui va quand même encore très bien.
Ou une Chevrolet Volt. Il en reste des Chevrolet Volt, peut-être, chez les concessionnaires.
Oui, il y aurait ça.
Une Chevrolet Volt, vous êtes bon pour 80-90 km en mode électrique. Et si vous ne pouvez pas recharger la batterie, bon, au moins, il va avoir un moteur à essence là, qui va vous...
Au cas où.
Il va être là en garantie, si on veut. Là.
Oui, parfait. Ouais, alors, ça répond à vos questions, M. Michel?
Oui, je vous remercie.
Excellent, merci. Passez une très bonne nuit et merci pour le jeune homme. Nous allons parler maintenant à M. Martin, je crois.
Bonjour.
Oui, bonjour, Martin.
OK, j'appelle pour... je vais acheter une Sierra 2019 ou une location pour un 2020.
Oui.
Je me demande sur une longue run, qu'est-ce qui est mieux, location ou l'achat?
Bien, ça, il faudrait peut-être regarder ça avec votre comptable, monsieur. Êtes-vous un entrepreneur en construction, vous? Êtes-vous un particulier?
Non. Moi, je fais beaucoup de chasse et de pêche. C'est pour ça que je me rachète un pick-up. Là.
Ouais.
J'ai acheté le dernier que j'ai acheté, c'est un Sierra. Je l'ai fait 10 ans que je l'ai présentement.
OK.
Si je regarde tout l'argent que j'ai mis dessus après 5 ans qui était payé,
ouais.
Je me dis que je suis proche comme de peut-être de 5-6 000 piastres vers une location. Okay. J'aurais fait une location, je suis quand même proche, j'aurais peut-être 5 000 $ de plus en location si je le calcule présentement.
Ouais.
Tu sais, je me dis,
parce que
un
si
véhicule neuf aux 2-3 ans versus...
Parce que si vous louez un véhicule neuf, par exemple, dites-vous là qu'à tous les 2 ans, le concessionnaire va vous rappeler pour reprendre votre véhicule, vous en offrir un autre, puis ça va, vous ne perdrez pas d'argent. Là. Vous allez avoir payé pour rouler avec le véhicule, mais il n'y aura pas de dépréciation. Parce qu'eux, ils vont facilement reprendre le véhicule puis le revendre aux États-Unis, notamment. À cause de la différence d'argent, il y a une très forte demande aux États-Unis pour les camionnettes qui roulent au Québec ou qui roulent au Canada.
Pour un achat de 7 ans, là, est-ce que après 4 ans, si tu veux changer, parce que le paiement va être moins haut, sur 7 ans, c'est sûr, mais si tu veux changer... Pensez-vous que je vais pouvoir changer pour la valeur qui va me rester ou ça va...
Ça, c'est une bonne question. Ça va dépendre. Il y a bien des facteurs, monsieur, qui vont rentrer en ligne de compte. C'est sûr que si vous payez pour une camionnette ultra-luxueuse, c'est sûr que vous allez perdre, je pense.
OK.
Il faut acheter un modèle là, intermédiaire qui va avoir... Que vous allez être capable de revendre... parce que pas tout le monde qui va vous vouloir... c'est pas parce que vous allez avoir une version très luxueuse que les gens vont tenir compte de ça dans 4 ans quand vous allez vouloir le revendre. Donc, acheter un modèle avec un équipement intermédiaire, si on veut, au niveau du luxe, là. Et peut-être que 4 ans, ça sera vérifié avec les concessionnaires, parce que même si vous achetez, ils vont peut-être vous rappeler aussi également pour vous le racheter, puis vous en vendre un autre, puis eux autres, ils vont le reprendre en échange, puis ils vont le revendre aux États-Unis.
On ne sait pas.
Ça, c'est parce que ça rentre. Tu sais, il va y avoir une explosion au niveau des prix de l'essence. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer au cours des 4-5 prochaines années. Il peut se passer bien des affaires. Si le prix du baril augmente, je ne sais pas, moi, pour X raisons, à 1,60 $, 2 piastres le litre, ben là, peut-être que votre camionnette là, va perdre beaucoup de valeur. Ça, c'est un fait.
Okay.
Là, il y a aussi des voitures électriques qui s'en viennent, des camionnettes électriques qui s'en viennent sur le marché, éventuellement. D'ici 5 ans, c'est sûr qu'il va en avoir. Ça va-tu faire en sorte que les motorisations à essence vont perdre de la valeur? Il y a plusieurs facteurs. Moi, à votre place, je louerais peut-être. Puis, quitte à peut-être à toujours payer une location à tous les mois. Mais encore
entre
là.
Entre un RAM,
ça va être moins cher qu'un GM.
Ouais.
Ouais. Puis, ça a une bonne valeur de revente aussi. Puis, si vous n'avez pas de besoin de V8, allez-y avec un V6.
Oui, c'est ça, il offre le V6, mais aussitôt que tu tires un bateau ou un trailer avec 2-4 roues...
Un 2-4 roues, vous n'aurez pas de problème. Mais si...
Oui,
mais si vous tirez, je ne sais pas, vous êtes obligé de tirer une remorque là, de 7-8 000 livres, là, non, achetez pas un V6. Mais si vous tirez, comme vous dites, des 4 roues, ben non, des motoneiges, il n'y a pas de problème.
C'est quand même une remorque de 16 pieds avec 2 SUV doubles, avec 2-4 roues...
Ça pèse combien, ça?
Ça fait au moins 5 000 livres, tu sais.
À 5 000 livres, vous allez être correct. 000, yeah. Vous allez être correct. C'est juste si vous dépassez.
Ah oui. Si
en fait, monsieur, il ne reste pas beaucoup de temps. Là. Alors, est-ce que ça répond quand même à votre question? Oui.
C'est bon, merci beaucoup.
Parfait, monsieur. C'est parce qu'il ne reste pas grand temps. Il est déjà 00:54. Et je pense que ton nouvel ami Denis, va absolument te parler. Ben là, Denis, êtes-vous là? Oui.
Allô.
Oui, bon, alors Denis, je vous écoute, là.
Ah ben Jean-François, écoute, je veux juste te dire merci. Écoute, ça a été fantastique. Un gars de Corvette un jour, c'est un gars de Corvette pour toujours. Puis je le savais qu'en le rencontrant, ben, on aurait parlé rien que de ça. Et puis, c'est ça.
Et vous, Denis, comment vous avez trouvé la nouvelle Corvette?
Ben justement, là, regarde, comme je t'ai dit, tu sais, moi, je suis comme un peu privilégié. Tu sais, le fait que j'en ai une de 52 ans, puis que, tu sais, elle a de l'aide d'un diamant, là.
Ouais.
Et puis, j'ai eu accès à l'auto, là, tu sais, plus que n'importe qui. Tu vas voir le GM, puis that's it. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de places que tu vois qui vont faire des bonnes choses avec cette auto-là. T'sais. Mais le look, tu as raison. Quand il est réussi, tu sais, ils sont tous rendus, là, la Curon SX, la Corvette, Audi, Lamborghini, Tu sais, c'est toutes des autos, là, tu sais, qui sont rendues quasiment, c'est assis par terre, là. Tu sais, ils appellent ça comme le low profile, là. Tu sais, là, ouais. C'est tout. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est hot, là. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ben, ça, je les comprends parce que, à cause que c'est rendu une auto qui est mid-engine, GM, ils ont détourné le moteur. Tu sais, il y a 400 chevaux. Tu sais, ça se compare pas à Mustang. Mais écoute, tu fais quand même 0-100 en 2.9.
Mais c'est parce qu'elle est très légère. C'est ça. Puis le moteur développe 495 chevaux. Là, il n'y a plus de boîte manuelle, seulement une boîte automatique.
Puis ben, paddle shift, là.
Oui. Puis éventuellement, ben, on s'entend qu'il va y avoir des.
Il y a de la place. Il y a de la place pour.
Puis il va y avoir des versions éventuellement plus puissantes là, dans les années à venir.
Ben, moi, ça me surprend pas, mais regarde, je pourrais mettre un petit 2 avec toi là, au mois de mai, là, la dernière semaine du mois de mai. L'Indy Pace Car, je ne serais pas surpris que ça soit quand même.
Ben, il y a des bonnes chances.
Le look est réussi, les performances sont là. À Indianapolis, on le sait tout, c'est North American built, là, tu sais.
Ouais.
Puis tu peux pas avoir plus North American que la Corvette, là, tu sais. C'est ça. Le 6.2, ben, c'est le même. Tu sais, c'est juste qu'il a été détourné. Puis ça, je les comprends parce que GM, leur expérience avec les mid-engines, tu sais.
Ben oui, c'est ça.
Yellow, puis Cover, là, c'était pas bon. Ouais, hein?